7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide, pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue 7 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, le génocide à hauteur d'enfants au Rwanda. C'était il y a 25 ans, du 7 avril 1994, lendemain de l'assassinat du président Habyarimana, au 17 juillet 1994, entre 800 000 et 1 million de Tutsis et Hutus modérés sont tués au Rwanda, selon un programme planifié par l'État qui somme les Rwandais Hutus de se mettre au travail, c'était l'expression consacrée, c'est-à-dire d'exterminer tous les Tutsis. Bonjour Charles Abonimana.
Bonjour.
Vous aviez 12 ans quand vos parents et vos frères et sœurs ont été assassinés dans votre village. C'était à 40 km de Kigali, ainsi qu'une partie du reste de la famille. Et vous publiez aujourd'hui « Moi, le dernier Tutsi » aux éditions Plomb, parce que vous avez eu la vie sauve grâce à une étrange résolution génocidaire de faire de vous le dernier Tutsi du village, celui que l'on tuera quand le génocide sera accompli. Vous êtes aussi devenu parmi les rares rescapés du village le témoin comptable des massacres. Vous allez nous expliquer pourquoi. Aujourd'hui, en tout cas, vous êtes revenu des ténèbres et vous avez participé à de nombreuses conférences internationales sur la prévention du génocide, sur la réconciliation et la justice. Vous avez aussi dirigé le groupe des anciens étudiants rescapés du génocide au Rwanda. Vous nous direz comment la mémoire en cette 25e commémoration peut et doit enseigner les folies de l'humanité. En deuxième partie d'émission, on parlera de la condition des femmes en Afghanistan. Charlie Dupuis a rencontré la réalisatrice documentaire Sarah Mani. Et puis il y a aussi la chronique de Marie-Rose Moreau, parents, enfants d'ici et d'ailleurs. Aujourd'hui, la pédopsychiatre nous parlera des enfants que l'on confie à d'autres adultes. Charles Abonimana, 25 ans après le génocide qui a supprimé près d'un quart de la population du Rwanda, pourquoi est-ce que vous avez décidé de publier votre histoire alors que le génocide a été largement documenté, décrit avec des livres, avec des films? Pourquoi une nouvelle preuve s'il en était besoin 25 ans après?
Ça fait déjà 25 ans que je témoigne, mais c'est oral. Surtout nous, au Rwanda, notre transmission de mémoire, ça se fait en oral. Actuellement, j'ai décidé de laisser quelque chose comme l'héritage dans ce monde, parce que quand on parle, ça passe vite. Alors l'écriture reste. C'est pour cela que j'ai décidé, moi je dis, je suis prêt à faire des écritures, au moins pour raconter à l'humanité ce qui s'est passé et comment on peut prévenir avant qu'il se fasse ailleurs.
À 12 ans, vous avez perdu combien de membres de votre famille?
Chez nous, au Rwanda, quand on parle de famille, c'est dans le sens élargi. Et nous, dans la maison de mon père, nous étions 10 pendant le génocide. 2 parents et 8 enfants, dont 5 sœurs et 3 garçons. Alors, ils ont tué les 2 parents et mes 6 sœurs et frères. Et je suis resté avec ma grande sœur, Yvonne.
Les assassinats massifs ont commencé le 7 avril au Rwanda, entre autres avec l'assassinat de la première ministre Hutu modérée. Mais la terreur n'est arrivée que le 24 avril 1994 dans votre village à Mayunzwa. Pourquoi ?
Mayunzwe, c'était un village familial, si je dis. La population de Mayunzwe était en cohésion totale. Il n'y avait ni Hutu ni Tutsi. Tout le monde était considéré comme voisin, ami et aussi frère. Et chez nous, juste là, quand le génocide a débuté ailleurs, sur le Rwanda, nos amis de Mayunzwe, ils nous ont promis une protection. Ils disaient qu'ils sont toujours de nos côtés, qu'ils vont nous protéger les attaques qui viennent de l'extérieur. La région du Sud était considérée comme rebelle à la décision des génocidaires au niveau national, à l'échelle nationale. Et juste là, le président intérimaire qui était aussi du CID, le docteur Théodore Sindikou Gabo, il s'est rendu à Boutaré, et la préfecture qui était dirigée par un Tutsi, qui s'est épargné aux attentats ou à l'attaque contre les Tutsis. Alors c'est lui qui a appelé tout le monde à se mettre au travail.
Se mettre au travail.
Oui, il a bien précisé qu'il faut aller travailler. Si les Hutus ne veulent pas travailler comme les autres, comme ailleurs, qu'il fallait les chasser ou les poursuivre jusqu'au même à les tuer.
Se mettre au travail, vous précisez d'ailleurs dans votre livre que le terme « tuer »,« assassiner » est finalement assez rarement prononcé à la radio. Comme si tout le monde comprenait le code.
Tout le monde avait ce code. Il y avait une radio qui était diable.
Radio Mille Collines.
Oui, la radio-télévision Mille Collines. Elle appelait tout le monde à se mettre au travail, de s'évacuer ou d'éliminer tous les ennemis qu'ils considéraient comme des cafards, les Tutsis donc. Alors c'était l'avion qui appelait les gens d'aller au travail. Si tu refusais, tu pourrais risquer ta vie.
C'est ce qui fait qu'entre le 19 et le 20 avril, alors que le génocide a débuté le 7, chez vous, dans votre village à 40 km de Kigali, eh bien, malgré les promesses des voisins Hutus, finalement, il n'y a plus aucun habitant Hutu qui veut protéger votre famille.
Oui, ça nous arrive. Après ce discours, il y a encore, dans les réunions régulières commencent, surtout pendant la soirée, où les Hutus du village vont se réunir pour décider quoi faire. Ils vont nous attaquer à partir de nos bêtes, les vaches. Ils vont détruire les maisons et les brûler jusqu'à ce qu'ils nous poursuivent à la chasse à l'homme.
Chasse à l'homme. Votre père, à l'époque, dirigeait un cabaret qui était célèbre. Il y avait des terres qui étaient cultivées. Votre famille était estimée, respectée. Elle va devenir une cible de choix dans ce que vous appelez cette chasse à l'homme.
Celui qui était considéré comme Tutsi n'était pas épargné. Il ne s'agissait pas seulement de mon père. Mon oncle fidèle, c'est lui qui était trop recherché.
Votre oncle fidèle va être d'ailleurs l'un des premiers à être sauvagement assassiné.
Sauvagement assassiné. J'ai assisté sa mort, comment il a été frappé jusqu'à même à le tuer dans le chemin avant d'arriver au calvaire. J'étais avec lui et mon père, et nous étions trois à monter le calvaire.
Le calvaire, c'est-à-dire ?
Les génocidaires chez nous, ils ont pris un nom, juste un nom. Notre colline s'appelait Nzaratsi. C'était une colline de résistance depuis les années 59-73. Ils ont décidé de la prendre comme l'abattoir. Alors ils ont baptisé cet endroit le calvaire, eux-mêmes, le même jour, le 24.
Votre mère, vos frères, vos sœurs ne vont pas être assassinés immédiatement en même temps que votre oncle et votre père. Pourquoi ?
Il y a une décision qui était prise, je ne sais pas par qui, en disant que les filles et femmes ne seront pas exactement tuées sur place, qu'il faut les laisser un peu de temps, pour que lorsque le président Habyarimana a assassiné, le jour de son enterrement, on tuera toutes les filles et femmes le même jour pour qu'elles soient sa couverture.
Vous allez assister à énormément d'assassinats, vous en tant que jeune témoin, vous allez nous dire pourquoi vous avez été désigné comme devant être le dernier Tutsi. Vous parlez de meurtre à huis clos dans votre livre. Vous dites cette phrase assez étonnante. À Mayunzwe, donc votre village à 40 km de Kigali, il n'y a jamais eu de soldats ni de gendarmes. Le très fin maillage des autorités locales et les milices partisanes ont suffi. C'est pas une découverte étrange que de constater qu'une grande intimité dans les rapports humains peut engendrer un maximum d'hostilité. Ça semble, vu de l'extérieur, inconcevable. Ces voisins que vous connaissiez avec beaucoup d'intimité qui deviennent tout d'un coup vos tortionnaires.
Oui, ils vont s'approvisionner du matériel, la machette et le gourdin, dont le marteau à bois. J'ai pas vu une camionnette porter ses matériels. Alors, d'un seul coup, ils deviennent des diables devant nous. Alors qu'ils étaient des amis intimes de la famille. Quand je dis la famille, ça veut dire tout le village là-bas.
Est-ce que cette question, on peut arriver à la résoudre au fil des années quand on repasse ce film d'horreur en boucle, du pourquoi des voisins, des amis intimes qui vivaient dans le respect mutuel ont pu basculer dans la folie?
Il faut toujours un dirigeant très fort, respectueux et qui fait peur. C'est ce qui s'est passé à Mayunzwe avec ce Sebruku, le chef de milice, qui va devenir mon maître pendant tout le temps du génocide que j'ai vécu.
Qu'a-t-il décidé pour votre sort?
Moi, je n'étais pas le plan. Et au calvaire, quand je suis arrivé là, ils ont tué mon père et Fidel par le gredin, le marteau à bois. Et moi, j'ai vu comment le sang grissait. Et j'ai décidé non, de supplier qu'il me tue par la machette. J'ai demandé une machette au cou pour que je ne souffre pas. C'est à partir de cette requête que le chef de milice il va décider de dire à la foule qu'il vient de trouver l'homme qu'il voulait. C'est lui qu'il voulait être le dernier Tutsi à être exterminé après les autres.
Ça semble une idée étrange.
C'est une idée étrange et c'est... Je voulais juste être tué sur place parce que mes camarades et ma famille, mes amis, mes voisins et les vieillards du village que je considérais comme sages, ils étaient devant moi, tous massacrés. Alors moi aussi, je voulais être tué. Surtout, j'ai demandé la machette parce que mon ami Toto, il était coupé à la machette. Il était un ami de l'enfance qu'on a partagé tout.
Il y a un homme qui vous aide à pousser votre vélo sur le chemin de l'école tous les matins. Un homme que vous appelez un homme bon.
Oui, l'homme bon.
Qui vous donne des friandises et qui va seul s'élever contre cette étrange idée de faire de vous le dernier Tutsi. Qui va dire non, non, moi je veux que Charles Abonimana soit mis à mort tout de suite.
Là, comment ça vous dit quelque chose aussi? Qu'il s'agit qu'il y avait des gens à Mayunzwe qui avaient participé dans des réunions de préparation. Alors la préparation du changement d'un homme doit commencer par celui qu'on considère comme un humain qui a l'humanité en soi. Alors ce monsieur, l'homme bon, que je considérais comme un ami, un vrai ami, hein, il m'a déçu. Malheureusement, aujourd'hui, je ne sais pas où il est. Il n'est pas mort, mais il n'est pas au village. Il a fui jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas s'il est où. J'aurais eu la chance de lui demander pourquoi il a voulu que moi, je sois tué là-bas, sur place.
Votre mère, vos sœurs, vos frères n'ont pas été tués tout de suite, vous l'avez dit, mais ils ont été emmenés dans ce qu'ils appellent la maison des femmes, pour les femmes. Cette maison des femmes, c'était aussi la maison du viol.
Oui, que je ne préfère pas donc à parler de plus, parce que c'est un peu choquant. C'est un sacrilège rwandais, surtout quand on parle de viol.
Ces femmes, pour une partie de votre famille, ont été enterrées, vivantes, dans des latrines.
Ouais.
Vous parlez beaucoup de la pluie à cette saison, au mois d'avril. Certes, c'est la saison des pluies au Rwanda.
Oui.
Mais vous dites que la pluie a joué un rôle...
Double.
Oui, double, comme vous dites.
Oui. La pluie nous a sauvés. Elle nous a sauvés parce que quand il pleuvait, nous avions une chance d'échapper aux tueurs qui nous cherchent partout. Au Rwanda, quand il pleut, tout le monde fuit. Oui. Mais aussi la pluie nous a tués. Elle nous a tués comment? C'était froid, c'était... une période de pluie assez intense. Et quand tu étais frappé à la machette ou au gredin, tu n'avais pas où se cacher. Ouais, il y a des infections, il y a quoi. Et moi, personnellement, c'est la pluie qui nous a retrouvés dans notre cachette. Il nous a frappé jusqu'à ce que papa décide d'aller dans la maison du pacte de son père. Et ce sont ses petits-enfants qui vont nous dénoncer aux tueurs. Ils vont nous livrer aux génocidaires de Mayunzwe.
La pluie, néanmoins, permet de fuir en marchant à reculons,
oui,
sans avoir besoin d'effacer ses traces, parce que la pluie recouvre les empreintes. Et vous parliez de chasse à l'homme tout à l'heure.
Il y a aussi des chiens qui nous chassaient avec ces hommes. Alors quand la pluie arrive, bien sûr, elle efface tout.
Vous êtes devenu, puisque vous êtes désigné comme devant être le dernier Tutsi, vous êtes devenu pendant plusieurs semaines esclave de celui qui avait permis que vous surviviez provisoirement. Qui était cet homme? Comment vous avez survécu pendant ces semaines, notamment après avoir été sauvagement battu, laissé pour mort?
J'étais presque mort. Lui, il a décidé, parce qu'il avait ce choix de me tuer un dernier. Il m'a pris de la maison de femme jusqu'à chez lui, où je vais donc servir en tant qu'esclave de travaux forcés, les travaux lourds. Avec ses blessures et aussi une douleur qui me faisait très mal.
Charles Abonimana, vous êtes parvenu à avoir la vie sauve parce que, entre-temps, bien sûr, il y a eu l'arrivée du Front Patriotique Rwandais, le fameux FPR, qui a évidemment provoqué la fuite des Hutus génocidaires. Et donc, vous avez ensuite été recueilli par des soldats. Et puis ensuite, vous avez vécu dans des orphelinats. Il faut le rappeler, hein, vous n'avez que 12 ans au moment du génocide. Vous allez nous raconter comment on se reconstruit après cela, dans un pays où une si grande partie de la population doit se reconstruire, d'ailleurs. Comment on survit à cela? Vous êtes devenu le comptable des massacres dans votre village. Vous allez nous expliquer comment, à 12 ans, on devient le comptable des massacres et comment votre témoignage aussi a été si précieux, notamment dans les tribunaux populaires.
7 milliards de voisins. À la minute, à la seconde près, on sait tout ce qui se passe au bout du monde. Nous faisons tous partie de la même famille humaine, 7 milliards de voisins.
Charles Abonimana, vous publiez « Moi, le dernier Tutsi » aux éditions Plomb, donc vous n'êtes pas le dernier Tutsi, comme l'aurait souhaité, comme l'avaient décidé vos bourreaux, selon un plan tout à fait machiavélique. Mais vous êtes devenu le comptable des massacres dans votre village, parce que forcément, pendant toutes ces semaines, en étant hébergé, retenu en détention chez le chef des massacres du village, vous allez voir beaucoup d'exécutions, et surtout, le soir, vous racontez, vous entendez la comptabilité des morts.
Les rapports. C'était un moment où j'ai souffert, j'ai beaucoup souffert, parce que chacun qui est tué, il est reporté au sein du chef le soir. Moi, je suis là, je suis avec eux.
Il y avait des cahiers, c'était écrit ou c'était oral?
Non, c'était oral, mais il comptait toujours. Donc la vie de l'esclavagisme, je sais beaucoup là-bas, m'a fait penser toujours que je suis le suivant. Chaque jour, chaque nuit, ils venaient, ils comptaient, ils parlaient de ceux qu'ils ont tués.
Et forcément, la fin du génocide approchait.
Oui, ça approchait jusqu'à moi. Ça est arrivé un jour aussi, parce qu'ils sont venus jusqu'à moi. Ils ont dit, maintenant le travail est terminé. Ça restait que ce petit gamin qui est ici, avec la petite fille qui vivait chez Sebrouk aussi. Alors, ils nous cherchaient. Ils voulaient que nous soyons les derniers, donc à être exterminés. Et par chance, il y avait 6 personnes à tuer. Alors, le chef va décider de les envoyer tuer ces gens-là. Et puis, ils reviennent, ils me prennent et ils assistent. Ils voulaient assister à ma mise à mort. Je ne sais pas si c'est lui qui devrait me tuer ou c'était donc un spectacle. Jusqu'au dernier.
Vous avez retrouvé les assassins de votre famille?
Oui, ils sont là. Ils ont terminé leur peine. Ils ont passé par les prisons.
Les gachachas. Ils ont été condamnés par les tribunaux populaires, les gachachas.
Oui.
Ils ont été libérés?
Ils ont été libérés. Ils vivent chez nous. Mais il y a aussi les autres qui restent parce qu'ils ont fait le mal, le plus.
Mais qui n'ont pas été condamné parce qu'il n'y avait pas suffisamment de preuves suffisantes?
Non, pas ça. À Mayunzwe, moi, je suis un peu satisfait de ce qui s'est passé concernant la justice. Chacun a passé là, sauf ceux qu'on n'a pas eu des informations de ce qu'il a fait. Alors, il y a deux catégories. Il y a une catégorie qui reste dans les prisons parce qu'ils ont fait le pire. Et il y a les autres qui ont terminé leur peine. Juste, ils sont là, ils construisent la nation comme les autres. Nous croisons, nous travaillons ensemble et même on partage les repas.
Ça a été un choix politique, ça.
Ça a été un choix politique.
De conserver, quoi qu'il arrive, cette unité nationale.
Oui.
Après le génocide d'une ethnie sur une autre qui pourtant partageait la même religion, la même langue, la même culture, la même histoire.
Il n'y avait pas eu de massacre entre les ethnies avant la colonisation. C'était une population, un peuple uni. Il n'y avait pas ni Hutu, ni Tutsi, ni Hutois. C'est à cause de la colonisation allemande, puis belge. Ils viennent, ils nous divisent en disant « ceux sont les Tutsis, eux aussi sont les Hutus ». Alors, il faut une révolution en 59. 62, la révolution est faite. Il y a une indépendance même. Ils vont tuer tous les Tutsis. Les uns vont fuir pour la deuxième fois. En 73, il y a un coup d'État, mais avant ce coup d'État, il y a des massacres aussi contre les Tutsis. Sur le plan génocide a commencé dans les années 58-59 avec la colonisation belge et l'Église catholique au Rwanda.
Et l'inscription sur les cartes d'identité de l'appartenance au clan. Les génocidaires et les Tutsis, vous l'avez dit, Charles Abonimana, vivent encore ensemble pour une partie d'entre eux. Quel peut être, 25 ans après, le rôle de la mémoire dans le génocide rwandais? Parce que dans votre pays aujourd'hui, il y a partout des lieux de mémoire, des ossuaires notamment.
Nous avons des mémoriaux, des sites mémoriaux partout. Et l'essentiel, quand je dis l'essentiel, c'est que tous les Rwandais, nous faisons partie de cette commémoration, la commémoration du génocide perpétré contre les Tutsis. Ce n'est pas un génocide rwandais, c'est un génocide qui a visé un peuple considéré comme ethnie, Tutsi. Et sur ces lieux de commémoration, c'est tous les Rwandais qui y vont, y compris les Hutus, même ces bourreaux qui ont fait leur peine, qui vivent...
Ils y sont fortement incités. Il faut préciser que le divisionnisme, aujourd'hui, par exemple, c'est devenu un délit qui peut mener à la prison.
Bien sûr, mais ils ne sont pas forcés. Parce qu'il y a eu un processus de changement, un processus de réconciliation, d'unité nationale, où tout le monde veut s'approprier à une seule carte d'identité, une identité nationale. Nous sommes tous les Rwandais. Quoi que ce soit, si même tu es Hutu ou Tutsi ou toi, tu te sens bien en tant que Rwandais au lieu d'être ce que tu considères.
Quelles sont, vous, les actions que vous menez dans les villages, notamment par rapport aux jeunes qui sont nés après le génocide? Qu'est-ce qui se transmet dans les familles, dans les communautés, avec vos propres enfants aussi, puisque vous avez 4 enfants, je crois. Enfin, ils sont assez jeunes encore.
L'aîné a 8 ans. Voilà, j'ai 4 enfants aujourd'hui.
Qu'est-ce que vous lui avez dit?
Les petits, surtout chez moi, c'est un peu compliqué. Ma fille, elle est née pendant la commémoration l'année passée et m'a posé cette question très compliquée à répondre. Papa, pourquoi je n'ai pas de grands-parents, moi? Les autres enfants de l'école, ils fêtent leurs anniversaires et ils visitent les grands-parents. Ça, c'est un problème. On ne va pas dire à un enfant de 7 ans, 8 ans, que tous ses parents ont été massacrés pendant le génocide. Alors, il faut au moins une façon d'exprimer des choses. Qu'est-ce que je choisis? Je choisis de les amener au village à Mayunzwe, où il y a une cohésion actuellement. Il n'y a pas de génocidaire, pas de quoi. Nos maisons sont ensemble, si je dis. Un Hutu, un Tutsi cohabitent ici. Et là, je les montre le reste des maisons où nous habitions avant. Alors je dis, mon père, il habitait ici. Mais là, c'est sa tombe. Les enfants de 10, 11, 12 ans, il y a un programme national au sujet génocide. Comment on aborde le sujet génocide d'après le niveau de conscience. Alors, à la génération, donc aux jeunes actuels, parce qu'aujourd'hui, plus de 55%, entre 60% de la population rwandaise est jeune, sont nés après le génocide.
Et c'est le cas au village, d'ailleurs, dans votre village.
C'est ça. Ce n'est pas des conférences, mais on anime quelques débats.
Qu'est-ce qui se dit dans ces débats?
Il y a une vérité.
Que disent les jeunes, quelle que soit leur origine?
Souvent, les enfants Hutu, ils ont toujours la tristesse d'être les enfants des assassins. Mmh. Alors, c'est eux qui prennent la parole en premier. Ils disaient, écoutez, moi, je n'étais pas là. Et mon père, il a fait le mal et le malheur, mais je le porte. Je vais bien sortir de cette obscurité. Il faut que vous m'aidiez à sortir. C'est ce débat-là que nous, moi personnellement, je m'engage chaque fois avec nos autres jeunes pour faire à ce que l'identité nationale domine tout ce qu'on est.
Comment on a ce courage-là à 44 ans, après tout ce que vous avez traversé? Il y en a qui ne l'ont pas, qui ne parviennent pas à pardonner?
Oui. Il y a ceux qui ne veulent même pas rentrer dans leur village. Il y a même ceux qui ne veulent pas saluer quelqu'un qu'ils connaissent bien, qui n'appartient pas à son groupe. C'est l'habitude. Mais le courage est nécessaire. Rwandais, surtout, si tu veux guérir toi-même, il faut que tu acceptes. Il faut que tu cèdes la douleur qui te domine. En tant qu'enfant, en tant qu'orphelin, et même nos mamans, les veuves du génocide, nous avons décidé de se regrouper dans des associations. Moi, j'ai présidé une association des anciens étudiants rescapés du génocide parce que j'ai été membre de l'association des élèves et étudiants rescapés du génocide. Dans ces associations-là, nous avons fait un pacte où un enfant de 16 ans, il devient le père de 25 enfants et une fille de même âge, ils deviennent la maman. Nous avons pris cette responsabilité à partir de 95 comme ça, pour que au moins ceux qui n'avaient pas là où aller, une famille qui t'écoute.
Aujourd'hui, Charles Abonimana, vous avez épousé il y a quelques années une jeune femme, également rescapée du génocide. Il vous reste votre sœur, Yvonne, qui est de passage en France avec vous pour la promotion du livre « Moi, le dernier Tutsi ». Est-ce que vous avez besoin, malgré tout, malgré la volonté farouche de recréer cette unité nationale, de participer à la survie de cette unité nationale, quoi qu'il arrive, parfois de retrouver cette intimité de ceux qui ont vu, qui ont vécu?
Moi, je ferai tout le nécessaire pour que cette unité nationale aboutisse, arrive jusqu'au bout. C'est pour cela que j'ai décidé d'écrire son livre. Ça raconte une histoire de mort, mais une histoire de vie. Ça raconte une histoire d'un choix et de sacrifice au sein des Rwandais. Non seulement nous les rescapés, mais plutôt les soldats du FPR qui nous ont libérés de ce génocide. Mais aussi les membres de ces familles Hutu qui ont résisté à participer au génocide. Et bien sûr, les membres des familles de ces bourreaux, ces génocidaires qui nous ont massacrés. Vous voyez que cette couche de Rwandais, c'est un peu compliqué à faire revivre. Alors, nous avons un devoir de le faire quoi que ce soit. Moi, je prends le volant.
C'est votre destin. Charles Abonimana, vous publiez « Moi, le dernier Tutsi ». Il faut lire, bien sûr, votre histoire. Il y a beaucoup d'amertume aussi à l'encontre de la France, de la Belgique, de la communauté internationale, des Nations Unies qui ont permis que se tienne ce terrible huis clos. Merci d'être passé chez 7 milliards de voisins. Et je redonne les références de votre livre « Moi, le dernier Tutsi ». C'est publié chez Plon. Merci beaucoup.
Merci. Merci à vous.
À suivre dans quelques instants, la condition des femmes en Afghanistan à travers le documentaire de Sarah Mani. Il y aura aussi la chronique de Marie-Rose Moreau, parents, enfants d'ici et d'ailleurs. Et puis Diara Ndiaye passera une tête dans le studio pour nous annoncer le programme de Alors on dit quoi ? Voilà, tout cela est à venir juste après une chanson de Gaël Faye. Il a exactement le même âge que vous, Charles Abonimana. En 1995, il a 13 ans, mais lui, il fuit le Burundi, où il est né, pour la France. Il a grandi dans cette mémoire de la guerre civile au Burundi et du génocide au Rwanda, car il est rwandais par sa mère. Petit pays, Gaël Faye. Gaugu gatoyi, gaugu kaniniya, warapunweni wapuye, waragoweni wagoka.
Une feuille et un stylo apaisent mes délires d'insomniaque. Loin dans mon exil, petit pays d'Afrique des Grands Lacs. Remémorer ma vie naguère avant la guerre, trimant pour me rappeler mes sensations sans rapatriement. Petit pays, je t'envoie cette carte postale, ma rose, mon pétale, mon cristal, ma terre natale. Ça fait longtemps les jardins de Bougainvilliers, souvenirs enfermés dans la poussière d'un bouquin plié. Sous le soleil, les toits de tôle scintillent, les paysans défrichent la terre en mettant le feu sur des brindilles. Voyez, mon existence avait bien commencé, j'aimerais recommencer depuis le début, mais tu sais comment c'est. Et nous voilà perdus dans les rues de Saint-Denis. Avant qu'on soit sénile, on ira vivre à Guisséni. On fera trembler le sol comme les grondements de nos volcans. Alors petit pays, loin de la guerre, on s'envole quand. Gaugu gatoyi, gaugu kaniniya, warapunweni wapuye, waragoweni wagoka. Gaugu gatoyi, gaugu kaniniya. Petit bout d'Afrique, perché en altitude, je doute de mes amours, tu resteras ma certitude. Réputation recouverte d'un linceul, petit pays, pendant 3 mois tout le monde t'a laissé seul. J'avoue, j'ai plaidé coupable de voyir quand tous les projecteurs étaient tournés vers le Zaïre. Il fallait reconstruire mon petit pays sur des ossements, des fosses communes et puis nos cauchemars incessants. Petit pays, te faire sourire sera ma rédemption, je t'offrirai ma vie, à commencer par cette chanson. L'écriture m'a soigné quand je partais en vrille, seulement laisse-moi pleurer quand arrivera ce maudit mois d'avril. Tu m'as appris le pardon pour que je fasse peau neuve, petit pays. Dans l'ombre, le diable continue ses manœuvres. Tu veux vivre malgré les cauchemars qui te hantent. Je suis semence d'exil d'un résidu d'étoiles filantes.
Sarah Mani est réalisatrice, elle est née en Afghanistan. Elle est enfant quand elle fuit avec sa famille en Iran pendant la guerre des années 80. À 20 ans, elle part étudier à Londres, elle découvre le cinéma. Aujourd'hui, elle vit à Kaboul. Charlie Dupiau l'a rencontrée lors de son passage à Paris pour la promotion de son premier documentaire « A Thousand Girls Like Me », « Un millier de filles comme moi ». C'est l'histoire vraie de Katera qui a été abusée par son père depuis l'âge de 9 ans dans la banlieue de Kaboul. Un jour, Katera décide de prendre la parole à la télévision sur une chaîne afghane. Et c'est cette séquence qu'on va entendre et qui a inspiré le documentaire de Sarah Mani, une femme engagée pour la condition des femmes en Afghanistan.
Mon père a commencé à me violer quand j'étais petite. Il était brutal, il me frappait et il me violait régulièrement. Ça a duré longtemps et puis un jour je suis tombée enceinte. Quand le bébé est né, il l'a abandonné dans le désert. Je suis tombée enceinte 4 fois encore, jusqu'à la naissance d'une petite fille. Et là je porte de nouveau un enfant de lui.
Aujourd'hui, qu'attendez-vous des autorités ?
Je veux que mon père soit puni afin que cela serve de leçon aux autres. Et je veux que mes enfants, ma mère et moi, puissions vivre en sécurité. Nous subissons des menaces à prendre au sérieux.
En fait, j'ai vu cette séquence à la télé, une toute petite fille, comme une jeune femme qui était assise sur une grande chaise avec des hommes assez âgés autour d'elle, qui pouvaient être son père. Et elle était en train de raconter quelque chose de très douloureux de sa vie privée, quelque chose de très intime. Et à ce moment-là, en fait, je tremblais quand je regardais cette séquence et je me suis dit, bon, il faut que je la trouve et je vais la rencontrer pour être un peu sa grande sœur, pour voir ce que je peux faire.
Donc Katera a 23 ans quand elle intervient sur cette chaîne de télé. Et en fait, vous le racontez dans le documentaire, elle avait alors raconté son histoire à 14 mollahs. Et c'est le 14e mollah qu'elle rencontre qui l'aide finalement et lui dit de s'adresser à des médias en lui disant « la télé est le seul endroit où tu pourras être entendu ». Ce qu'il faut savoir, c'est donc que ces viols en fait, de ce père sur sa fille, sur Katera, ont duré pendant 13 ans. Comment expliquer que le père ait été autant protégé ?
Elle est allée porter à plusieurs fois plainte contre son père, contre lui à la police locale. Mais à chaque fois, comme lui, il avait des relations haut placées, il arrivait à donner de l'argent et sortir. En fait, le système est corrompu. Une des dernières fois, quand elle avait porté plainte et que la police l'avait arrêté avant de le relâcher, quand il est revenu à la maison, il a dit à toute sa famille, « Bon, si vous me faites encore une fois ce coup-là, je vais prendre les deux frères d'abord, après je vais te prendre toi, Katera, et après je vais prendre ta mère. » Et il a montré donc une corde et il a dit, « Voilà, avec ça, je vais tous vous prendre. » Après, elle a commencé à ne plus rien dire à la police. Et après ça, en fait, elle est allée demander de l'aide à sa famille, à ses oncles, à ses tantes, à sa grand-mère de côté paternel. Personne ne l'a aidée. Tout le monde a dit il faut garder ça sous silence. Ce n'est pas bon pour la famille, pour ton honneur, pour l'honneur de la famille. Et donc, avec de violence et de pression, ils ont essayé de la garder sous silence. Et donc en fait la solution c'était que une fois donc elle porte plainte et dès que la police amène le père, tout de suite elle va à la télévision pour raconter son histoire, pour témoigner, pour que la parole soit libérée et du coup la police ne peut plus relâcher le père.
Et quelle critique lui vaut ce passage à la télévision ?
On disait, si ça lui arrivait pendant 13 années, comment ça se fait qu'elle est restée silencieuse, qu'elle n'est jamais venue nous en parler? Donc ça veut dire qu'elle avait du plaisir. Ça me fait rire parce que c'est tellement bas, c'est tellement petit. Je me dis, où est-ce qu'elle en est en fait cette société? Mais elle va où en fait? Une société qu'elle peut penser qu'une fille a eu du plaisir pendant 13 ans à être violée par son père, c'est tellement ridicule qu'il faut vraiment en rire. Qu'est-ce qu'on peut dire? Donc le procès du père est arrivé à peu près un an après que j'ai commencé à connaître Katera, donc 2015, on peut dire.
Et alors, que s'est-il passé dans ce procès?
Dans ce procès, qui était un procès, on peut dire, préliminaire, avant le début de vrai procès, il s'est passé quelque chose de particulier. Le juge a dit à Katera, quand ça t'est arrivé, pourquoi tu ne t'es pas donné la mort et pourquoi tu n'as pas tué tes enfants? Et après, il a regardé la mère de Katera, il a dit, mais quand tu as su que ça arrivait, pourquoi tu n'as pas tué ton mari? La mère l'a regardée, lui a dit, mais vous pensez que c'est si facile d'assassiner quelqu'un?
Effectivement, la famille proche de Katera était au courant, sa mère notamment.
En fait, on peut dire que sa mère est l'exemple parfait de ces mères qui pensaient que le père, l'homme, est égal à Dieu et qu'il faut le suivre comme on suivait l'ordre de Dieu.
Alors, on a parlé du procès préliminaire. Ensuite, donc, est venu un autre procès et le père de Katera a été condamné.
Comme en Afghanistan, ce n'est pas légal d'avorter et c'est considéré comme l'assassinat, en fait. Donc là, il a été condamné à mort pour le fait qu'il avait fait avorter. Il avait forcé sa fille à avorter.
Il avait en fait été violent, ce qui avait provoqué des fausses couches.
Pour 4 bébés.
En 2009, l'Afghanistan a adopté une loi en fait, qui condamne les violences faites aux femmes. Et c'est une loi qui est rarement appliquée parce que les victimes, comme Katera d'ailleurs, courent le risque d'être accusées de crimes moraux. Quel regard vous portez sur l'Afghanistan aujourd'hui? Où en est l'Afghanistan sur cette question des droits des femmes?
Il y a énormément de femmes à Kaboul, mais pas que à Kaboul, dans les endroits éloignés de la ville, dans les villages, qui n'arrivent pas en fait à rejoindre le système juridique, à porter plainte, ou même elles n'arrivent même pas à avoir en fait un minimum pour leur santé ou leur éducation. Et nous, on peut même pas être au courant parce qu'en fait ces gens-là, ces endroits-là sont entourés des talibans et ils n'ont pas de téléphone. Et nous, on sait que les catastrophes existent, mais on ne peut pas être vraiment au courant. Peut-être que toutes ces femmes-là, leur histoire pourrait être intéressante pour nous, mais on ne sait même pas comment on peut les aider. Nous n'avons même pas la chance, en fait, de pouvoir les contacter. Moi, je suis vraiment désolée parce qu'on sait que toutes ces catastrophes-là existent partout en Afghanistan, mais on ne peut rien y faire.
Aujourd'hui, après 13 ans de viol et de souffrance, Katera vit en France avec ses deux enfants qui sont nés de l'inceste. Elle vit aussi avec son nouveau fiancé. Merci à Azal Bagheri pour la traduction française de cette interview qui a été réalisée en farsi de la réalisatrice Sarah Mani.
7 milliards de voisins,
on existe ensemble.
7 milliards de voisins, comme chaque vendredi, dans un instant, nous allons laisser la parole à la pédopsychiatre Marie-Rose Moreau pour sa chronique.
On est plus le fils de son époque que le fils de son père.
Parents, enfants, d'ici et d'ailleurs.
Parents, enfants, d'ici et d'ailleurs, c'est la chronique de Marie-Rose Moreau, pédopsychiatre. Bonjour Marie-Rose.
Bonjour Emmanuel.
Aujourd'hui, on discute du confiage, confier ses enfants. C'est une pratique qui est courante, informelle, notamment sur le continent africain. Les auditeurs nous en parlent souvent. En Europe, c'est une source d'inquiétude parce qu'on cherche d'abord à confier ses enfants, à les faire garder d'une manière professionnelle. Ça aussi, on en a parlé dans une précédente émission sur les gardes d'enfants. Quelles sont vos positions sur ces différentes pratique, confier ses enfants.
Et oui, c'est vraiment quelque chose d'important parce que dans le lien, dans l'amour qu'il y a entre les enfants et les parents, il y a le fait d'être ensemble, quoi, tout simplement. Et en fait, j'ai remarqué qu'il y avait plusieurs manières de penser cet acte grave qui est de confier son enfant à quelqu'un d'autre, et qu'il y avait plusieurs manières de penser et que ça crée vraiment des malentendus très, très importants. Ici en Europe, lorsqu'on confie un enfant, que ce soit pour un temps court ou de manière régulière ou encore plus pour un temps long, on vit ça comme une séparation difficile, parfois tragique, et on cherche à tout prix à garder des relations avec cet enfant, mais aussi avec ceux à qui on l'a confié. On demande des nouvelles.
Voilà, je vais te téléphoner mon chéri.
Voilà, oui. Tous les jours, maman va te téléphoner, même lorsque je suis en vacances. On donne des consignes. Lui, pour s'endormir, il faut qu'il fasse comme ça. On envoie des choses, si on est longtemps séparés, à l'anniversaire ou dans des moments, on lui envoie des choses, on lui écrit, on lui téléphone, on lui donne un téléphone pour lui envoyer des SMS, on lui envoie des cadeaux. On considère que ce qui prime avant tout, c'est le lien avec cet enfant, et on essaie de faire comme si on gardait avec lui la relation la plus proche possible de celle qu'il avait quand il était avec nous. Et on garde aussi un lien important avec ceux qui gardent ou ceux à qui on a confié cet enfant. Donc ça, c'est une manière de considérer que ça continue malgré tout.
Et puis c'est une manière relativement anxieuse. En Afrique, c'est pas, y a pas la même anxiété.
Non.
En tout cas, elle n'est pas là, l'anxiété.
Exactement. En Afrique de l'Ouest en particulier, mais Afrique centrale aussi. Les enfants traditionnellement circulent quand même beaucoup plus que chez nous, et c'est pour ça que d'ailleurs on parle du confiage et qu'on l'étudie depuis très longtemps. Et en principe, l'idée, c'est qu'on confie à une personne ou à une institution digne de confiance, et que cette personne ou cette institution va prendre la fonction parentale entièrement. On lui délègue toute responsabilité. Et on ne donnera ni conseil, on ne posera pas de questions, on ne cherchera pas à avoir des nouvelles directement, ou en tous les cas, pas fréquemment.
Parce qu'on a confiance.
Parce qu'on a confiance, mais aussi parce que ça serait de manquer de respect à cette personne ou à cette institution. Et parce que on considère que voilà, qu'on a vraiment délégué.
Donc ça crée du malentendu.
Alors, ça crée du malentendu. Alors, bien sûr, ce qui se passe aussi, c'est que de temps en temps, il y a des dérives. Il y a des enfants, par exemple, domestiques. On a confié à une personne, à un cousin, à quelqu'un, et on lui a délégué des responsabilités, et finalement, la personne ne s'occupe, va faire avec cet enfant autre chose que ce à quoi il était destiné. Mais de toute façon, oui, ça crée du malentendu, au-delà même de ces dérives, parce que C'est important de comprendre les deux manières différentes, les deux manières opposées de se représenter ce confiage. Et c'est très important du point de vue de l'enfant, car c'est très différent de penser qu'on a été abandonné par ses parents ou au contraire qu'on a été confié, car on était très important, ou qu'on a été confié à quelqu'un de confiance qui représente entièrement mes parents. Parce que devant la séparation, l'enfant, il doit donner un sens à cette expérience de séparation et il doit comprendre d'une certaine façon. Et il importe que ce ne soit pas vécu comme un abandon, comme une blessure, mais comme un acte qui s'imposait et qui n'était pas lié à l'enfant lui-même. D'ailleurs, une maman africaine qui m'expliquait cette manière différente de voir les choses me disait « Lorsqu'on confie un enfant, on ne doit pas se retourner.
Oui. » Mais alors, ce qui veut dire qu'un enfant africain confié à une famille qui vit en Europe, avec le regard de la société autour de lui qui va lui renvoyer l'image de l'enfant abandonné, il peut finir par croire qu'il a été abandonné, alors qu'en fait, il a été confié.
Totalement. Mais c'est pour ça que je me suis intéressée à cette question. Moi, j'ai vu arriver, en général, c'est déjà des jeunes adultes qui ont été confiés à quelqu'un de la famille en France et qui, j'allais dire, pendant
ça
toute une
être
période...
Clair oui, pour voilà, eux, normalement.
C'était clair pour eux. Ils avaient été confiés parce qu'ils étaient importants, parce qu'on croyait en eux, parce qu'ils allaient devenir des gens importants. Et puis, avec cette question lancinante, mais quand même, on t'a confié, quand même, on t'a abandonné. Et là,
c'est le regard des autres.
C'est le regard
dans
des
la
autres.
Société française, par exemple.
Oui, mais après, les enfants, il y a une sorte de résonance et les enfants se disent, mais au fond, où je me situe? C'est pour ça que ce sens que les enfants donnent à cet acte-là est très important et il dépend aussi du regard de la société.
Merci Marie-Rose Moreau. On vous retrouve bien sûr pour cette chronique en podcast sur les plateformes de téléchargement. Parents, enfants d'ici et d'ailleurs, Marie-Rose Moreau, RFI. Vous avez aussi publié Nos enfants demain chez Odile Jacob.
Et voilà. Alors on dit quoi ?
Diara Ndiaye vient de nous rejoindre dans le studio des 7 milliards de voisins. Bonjour Diara.
Bonjour Emmanuel.
Alors on dit quoi ce samedi est consacré à la lecture ?
Oui, absolument. Ce samedi, on va voir qu'en Côte d'Ivoire, des jeunes ont décidé d'œuvrer pour changer le comportement des Africains face à la littérature. Rita Dro, qui est journaliste, et Mireille Tionté, qui est enseignante, ont décidé de mettre en place des initiatives innovantes, à savoir des clubs de lecture et des bibliothèques de rue gratuites. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elles ciblent les tout-petits dès l'âge de 3 ans.
La boîte a été installée il y a un mois. Tous les matins, j'avais deux ou trois petits gosses qui traînaient là. Tanti, c'est quoi ça? Je dis, c'est une boîte à livres, c'est pour vous. Si vous voulez lire, vous venez, vous prenez les livres, à condition de ne pas les salir, de ne pas écrire dedans. Quand vous finissez, vous nous faites des petits résumés. Le jeune, contrairement aux tout petits, ils ont déjà grandi avec cette mauvaise habitude, on va dire, de ne pas lire. Quand ils lisent, c'est pas de façon volontaire comme ça. Mais il n'y a rien de dramatique. On peut toujours corriger en instaurant des livres à la portée de ces jeunes-là.
Découvrir la lecture, ça passe donc par le livre, un objet à découvrir très très jeune, dès 3 ans si j'ai bien compris Diara. Pour en savoir plus sur cette initiative, rendez-vous demain à la même heure. Alors on dit quoi ?
À 11h10 temps universel.
Merci Diara. Quant à moi, je vous donne rendez-vous lundi, fac de gestion publique ou école de commerce privée. Vous avez fait vos études dans le privé, dans le public Diara ?
Dans le privé et le public.
Eh bien on se posera justement la question, où sont les talents de demain ? C'est à 11h10 temps universel et bien sûr vos témoignages sur le WhatsApp au 33 1 84 22 71 71.